Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Monnaie, banque et marché financier » est un manuel universitaire de Frédéric S. Mishkin. Adapté au contexte français et européen dans la collection Éco-gestion, cet ouvrage de référence étudie le fonctionnement du système financier. Depuis les choix de portefeuille, des agents économiques, jusqu'aux décisions des banques centrales, son objectif est de relier les mécanismes monétaires, les marchés de capitaux, les banques et la conjoncture macroéconomique. Le livre ne traite donc pas la monnaie comme un simple instrument de paiement, il montre comment elle conditionne le crédit, les taux de rendement, les investissements et la stabilité financière. La version française accorde une place importante à la comparaison entre les États-Unis et l'Union européenne, notamment aux institutions européennes et au système bancaire français. Mishkin associe exposition théorique, raisonnement économique et exemples issus de situations financières concrètes. Il vise ainsi à fournir des outils de lecture pour comprendre les crises, la régulation bancaire et les effets des politiques monétaires. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le système financier comme dispositif de transfert de ressources et de gestion des risques. Le point de départ du livre est la fonction économique du système financier, faire circuler les fonds des agents disposant de capacités de financement vers ceux qui ont besoin de finance consommation, investissement ou activités productives. Cette circulation est indispensable, car les ménages, les entreprises et les administrations ne reçoivent ni ne dépensent leurs revenus au même moment. Mishkin distingue le financement direct, dans lequel emprunteurs et prêteurs se rencontrent par les marchés de titres, du financement indirect, dans lequel une institution financière, surtout une banque, s'interpose entre eux. Cette distinction aide à comprendre pourquoi les marchés financiers ne remplacent pas automatiquement les banques. Les intermédiaires réduisent les coûts de recherche et de contrôle, diversifie certains risques et limite les difficultés liées aux informations inégalement réparties entre prêteurs et emprunteurs. Le livre insiste ainsi sur les problèmes de sélection adverse avant la conclusion du contrat et de risque moral après son obtention. Ces mécanismes expliquent l'existence de garanties, de fonds propres, de surveillance et de relations bancaires durables. Le système financier est donc présenté à la fois comme une infrastructure de financement et comme un ensemble des institutions chargées de rendre le crédit suffisamment fiable pour soutenir l'activité économique. Deuxièmement, taux d'intérêt, obligations et demandes de monnaie, les prix qui organisent les choix financiers. Mishkin donne au taux d'intérêt un rôle central, car il relie la valeur présente des ressources à leur valeur future. Le lecteur apprend que le taux pertinent ne se réduit pas au taux affiché sur un produit financier. Il faut tenir compte de la maturité, du risque de défaut, de la liquidité et du traitement fiscal des actifs. Cette approche éclaire les écarts de rendement entre obligations et la forme de la structure par terme des taux. Le livre analyse également le lien inverse entre le prix des obligations et leur rendement, outil essentiel pour interpréter les conséquences des variations de taux sur les portefeuilles. La monnaie entre dans ce raisonnement comme un actif particulièrement liquide, mais généralement moins rémunérateur. La théorie de la préférence pour la liquidité sert à expliquer pourquoi les agents souhaitent détenir des encaisses pour réaliser des transactions, faire face aux imprévus ou conserver une marge de manœuvre face aux évolutions anticipées des taux. Une hausse du revenu ou du niveau général des prix peut accroître la demande de monnaie. À offre monétaire donnée, cet ajustement exerce une pression sur le taux d'intérêt. Le manuel relie ainsi des décisions individuelles de détention d'actifs aux mouvements observés sur les marchés et à la transmission de la politique monétaire. Troisièmement, les banques commerciales, créatrices de dépôts et productrices d'informations, elles, ouvrage analyse les banques non seulement comme prêteuses, mais comme entreprises spécialisées dans la production de services financiers et dans le traitement de l'information. Elle collecte des dépôts liquides tout en accordant des crédits souvent plus longs et moins liquides. Cette transformation des échéances rend le financement de l'économie plus accessible. Mais elle crée aussi une vulnérabilité si les déposants réclament simultanément leurs fonds. Une banque solvable peut connaître une crise de liquidité. Mishkin explique donc pourquoi la confiance, les réserves, le refinancement et la supervision sont déterminants. Le crédit bancaire repose aussi sur une capacité à sélectionner les emprunteurs, suivre leur comportement et construire des relations de long terme. Cette spécialisation limite certains effets de l'asymétrie informationnelle qui freinerait le financement direct. Le livre aborde la création monétaire associée au crédit bancaire. En la replaçant dans un cadre institutionnel, les banques créent des dépôts, mais leurs décisions sont contraintes par les risques, les besoins de liquidité, les règles prudentielles et les conditions imposées par la banque centrale. Cette présentation évite deux simplifications opposées, considérer les banques comme de simples intermédiaires passifs, ou croire que leur capacité de crédit est sans limite. elle prépare aussi la compréhension des paniques bancaires, de la contraction du crédit et des réponses des autorités lors des crises. Quatrièmement, banque centrale et transmission de la politique monétaire vers l'économie réelle. Une partie majeure du manuel porte sur les banques centrales et sur les canaux par lesquels leurs décisions influencent inflation, production et emploi. La banque centrale agit notamment sur les conditions de liquidité et sur les taux de court terme, traditionnellement par des opérations sur les marchés. Ces décisions se transmettent ensuite aux taux appliqués aux ménages et aux entreprises, au prix des actifs, aux taux de change et aux anticipations. Mishkin souligne que cette transmission est graduelle et incertaine, une modification de l'instrument monétaire ne produit pas mécaniquement un résultat identique dans toute conjoncture. Les comportements des banques, la confiance des emprunteurs, la santé des bilans et les anticipations de prix jouent un rôle décisif. Le livre examine les objectifs usuels de la politique monétaire, en particulier la stabilité des prix, ainsi que les arbitrages rencontrés lorsque la stabilité financière ou l'activité sont menacées. Les crises financières occupent une place importante dans cette analyse. Elles montrent que la baisse des taux peut être insuffisante lorsque les marchés sont désorganisés ou lorsque les institutions réduisent fortement leurs prêts. Le lecteur comprend alors pourquoi les autorités peuvent recourir à des mesures exceptionnelles de fourniture de liquidités et pourquoi ces interventions soulèvent des enjeux de responsabilité, de régulation et de crédibilité. En dernier lieu, la comparaison États-Unis-Union européenne pour comprendre institutions, crises et régulations, ce qui distingue particulièrement cette adaptation et sa démarche comparative. Les États-Unis conservent une fonction de référence, notamment pour les mécanismes monétaires et les marchés financiers, mais le livre ne présente pas le cadre américain comme universel. Il examine les spécificités institutionnelles de l'Union européenne, le rôle de la Banque centrale européenne, les interactions entre règles européennes et autorités nationales, ainsi que la place du système bancaire français. Cette comparaison est utile parce que la monnaie unique ne supprime ni les différences de structure financière ni les divergences de conjoncture entre pays. Elle rend plus visibles les difficultés pratiques de la conduite monétaire dans une zone composée de plusieurs économies et de plusieurs traditions de supervision. Le traitement du cours euro-dollar relie en outre les marchés d'échange aux écarts de taux, aux anticipations et aux mouvements internationaux de capitaux. Le livre approfondit aussi les crises financières, la titrisation, le système bancaire parallèle, le désendettement forcé et le resserrement du crédit. Ces thèmes montrent que les risques peuvent se déplacer hors du bilan bancaire traditionnel et que la stabilité ne dépend pas uniquement du niveau des taux directeurs. La régulation et la surveillance doivent suivre les interdépendances entre banques, marchés et finances non bancaires. Cette perspective donne au lecteur des repères plus concrets pour analyser les débats européens. En conclusion, monnaie, banque et marché financier convient en priorité aux étudiants en économie, gestion, sciences politiques et administration publique qui recherchent un manuel structuré sur la monnaie, le crédit et les institutions financières. Il est aussi utile aux professionnels débutants de la banque, de la finance ou de la régulation qui souhaitent replacer des notions techniques dans une logique économique cohérente. Son bénéfice pratique réside dans la capacité à interpréter avec plus de rigueur une hausse de taux, une tension de liquidité, une crise bancaire ou une décision de banque centrale. Sur le plan intellectuel, le livre relie la microéconomie de l'information et des portefeuilles à la macroéconomie de la politique monétaire et des crises. Cette articulation évite de traiter séparément les banques, les marchés et la conjoncture. Par rapport à des introductions plus brèves, l'ouvrage se distingue par son ampleur et par la place accordée aux mécanismes institutionnels. Par rapport à un manuel exclusivement américain, son adaptation française apporte une comparaison suivie avec l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le système bancaire français. Les encadrés appliqués renforcent le lien entre raisonnement théorique et actualité économique. La densité de l'ensemble peut demander un effort au lecteur sans base économique, mais la progression pédagogique et les définitions rendent cet effort productif. Il constitue ainsi moins un guide de placement qu'un instrument durable pour comprendre comment monnaie, finances et pouvoirs publics interagissent. Si vous souhaitez soutenir Frédéric Mishkin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!